franceinter.fr.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Oui, le cinéma pour beaucoup d'entre nous est toujours l'objet d'un culte. Il se pratique encore dans les salles pour les plus fervents, quoique pop-corn et portable viennent de plus en plus perturber l'office. Alors, il reste les pratiques individuelles et les objets de ce culte avant leur dématérialisation. Parce que fin 2016, on regarde encore des DVD, on lit toujours de vrais livres et on écoute de la musique sur des CD aussi. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
À quelques jours de Noël, comment offrir du cinéma et comment choisir parmi ces offres ambitieuses et pour certaines d'entre elles, résultat d'un vrai et beau travail éditorial. Deux conseillers aujourd'hui. Bonjour Gaël Golen.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Première et de Première.fr. Bienvenue Thomas Borez.
Bonjour.
Journaliste à Studio Ciné Live et France 24. Tous ensemble, nous allons cocher vos listes. Enfin, les sorties cinéma de cette 50e semaine de l'année, ça se calme un peu en volume, en qualité, c'est ce qu'on verra, avec Rogue One, Star Wars Story, Manchester by the Sea, Personal Shopper, Une semaine et un jour, et de belles reprises. Une question à tous les deux avant de démarrer. Comment faire pour un magazine de cinéma pour aller plus vite que la vitesse des infos? Comment le papier peut-il concurrencer le web? Et Gaël Golen qui fait « Oh là 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 là
ah, !» c'est la question piège. Bah en prenant le temps. En prenant le temps, en fait. À mon avis, en prenant le temps, en proposant des vrais exclus, des belles photos, en réfléchissant un peu plus approfondi, de manière un peu plus approfondie que effectivement le robinet d'infos que nous sert le web. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour des magazines de cinéma, qu'il y a de la place pour une réflexion sur le cinéma. D'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus tard, parce qu'on va revenir dans le temps. Mais voilà, moi, je suis vraiment la rencontre. Contre la mise en scène aussi, la plume, parce que c'est important de savoir, d'avoir des gens qui écrivent, qui savent écrire. Et ce sont deux médias qui, à mon sens, ne sont pas concurrents, mais sont réellement complémentaires. Il faut trouver la manière dont ils se complètent. Mais voilà, moi, je suis loin d'avoir un discours désespéré.
Thomas Borez, quand vous faites, par exemple, une enquête sur le cinéma roumain, comme vous l'avez fait récemment, elle est également sur le web.
Oui, mais est-ce qu'elle sera lue de la même manière? C'est tout l'enjeu. Je suis d'accord avec Gaël là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une mise en page. C'est ça qui est formidable aussi avec la presse écrite. C'est une mise en page. C'est des photos qui viennent en résonance avec un texte. On met en avant certaines choses, choses que le web ne peut pas faire. En tout cas différemment. Donc c'est vrai que ça se complète. Oui, ils sont quand même concurrentiels. C'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher non plus. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut affirmer d'autant plus notre différence qu'on fait les deux nous-mêmes. Hein. On fait le web et la presse, et la presse écrite, pardon. Donc il faut effectivement se singulariser. Ça, c'est le travail de tous les jours.
Votre premier choix, Gaël Golen, et à l'heure où sort Rogue One, Star Wars Story, vous avez choisi de célébrer les 50 ans de Star Trek.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Magnifique ce générique, Gaël Golen. Tiens, ça me fait penser à Tim Burton. Je sais pas pourquoi, aux aliens de Tim Burton. À la Mars Attack.
Mais ils ont tous puisé dans Star Trek. C'est ça qui est fou. Vous disiez en ouverture, à l'heure où Star Trek Rogue One sort en salle, comme s'il fallait les opposer. Star Wars, pardon, Star Wars. Star Wars, pardon. Un beau lapsus, justement, comme s'il fallait les opposer, alors que non, George Lucas a toujours dit que c'est parce qu'il avait vu le succès de Star Trek, parce qu'il avait vu qu'il y avait une possibilité de SF intelligente, qui s'était lancée dans l'aventure de Star Wars. Donc, à mon avis, il y a vraiment, voilà, Star Trek, et pas Star Wars, c'est réellement pour moi la pierre fondatrice de toute la SF qu'on voit aujourd'hui.
Il y a quoi dans ce coffret alors ?
Bon, il y a presque tout, c'est-à-dire qu'il y a au moins les trois premières séries des années 60-66. Il y a les 13 films originaux qui sont pour certains de vrais nanars, mais toujours jouissifs. Pour d'autres, des vraies petites perles. Je pense notamment aux 4 qui est, alors dont on se moque beaucoup parce que c'est Spock qui va chercher à sauver les baleines dans l'Antarctique. C'est vrai. Mais c'est un vrai film politique.
Quel pitch ?
C'est un vrai film politique et qui a bien vieilli. Et puis surtout, la colère de Khan, qui est le deuxième Star Trek.
Oui.
Et qui est un vrai film noir, extraordinaire, avec, je le spoil, mais tout le monde le sait, avec la mort de Spock, avec des images de SF, des imageries de SF, qui sont, je vois que...
On sait tous.
Non, mais je vois que mes partenaires sont dubitatifs. oui, le premier. Ouais. Robert Wise a effectivement réalisé le premier Star Trek.
En matière d'anticipation, moi je voulais vous recommander juste un livre, Station 11, je ne sais pas si vous l'avez lu tous les deux, un film que vous serez les premiers à lire puisqu'il n'est pas encore réalisé, un livre dont les droits ont déjà été achetés et très chers pour le cinéma, tellement l'histoire semble avoir été écrite pour être filmée. Station 11, c'est d'une jeune auteure canadienne, je suis sûr que vous la connaissez, elle s'appelle Emily St. John Mandel. Ouais. Un grand acteur joue le roi lire sur scène et s'effondre. Quelques heures plus tard, une épidémie ravage notre planète et les quelques survivants, dont cette symphonie du voyage, va traverser les villes décimés pour interpréter du Shakespeare et jouer du Beethoven. Dans un autre coin d'Amérique, certains se sont réfugiés dans un terminal d'aéroport, dont l'agent de ce grand acteur. Survivre sans électricité, survivre et se réinventer, et survivre aussi, surtout grâce à ce qu'il restera. L'art, notamment le théâtre et la musique, c'est captivant, c'est élégant et c'est pas du tout désespérant sur la capacité de l'homme à se réinventer. C'est vraiment un très grand livre, Station 11 d'Emily St. John Mandel.
Thomas. Aux éditions Rivage.
Oui,
extraordinaire bouquin. Non, mais c'est, ouais. Je suis Christine. Merci parce que voilà, moi, je recommande pas ce bouquin-là aujourd'hui, mais c'est vraiment un des récents bouquins que j'ai lu que je trouve formidable. Au pouvoir cinématographique, t'as raison. Je savais pas que les droits étaient achetés, mais au pouvoir cinématographique, c'est immédiat. Quoi.
Et c'est là où on se rend compte que s'il y a une épidémie mondiale, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus de cinéma puisqu'il marche à l'électricité. Il ne reste que le théâtre. La musique, la sculpture, le dessin. Thomas, lui, affirme avoir voulu écrire des musiques de films dès l'âge de 14 ans. Quincy Jones, le célèbre musicien, arrangeur, producteur américain, dans un coffret, le cinéma de Quincy Jones.
Chez Universal.
Ouais. Chez Universal, c'est Stéphane Lerouge, l'éminent Stéphane Lerouge, qui compile, qui exhume tout ça depuis des années. Et là, effectivement, il a sélectionné une courte discographie des films de Quincy Jones. C'est réuni sur 6 CD. Mm. Et on voit notamment la première bande originale qu'il a faite, c'est pour Sidney Lumet, ce pawnbroker. On est dans les années 60.
Prêteur sur gage.
Voilà, prêteur sur gage. À une époque où un musicien afro-américain n'avait pas forcément le droit de citer à Hollywood, et c'est vrai, et Sidney Lumet va le recommander pour faire ce film qui se passe, ce prêteur sur gage qui a des réminiscences de la Shoah, un film formidable, assez méconnu de Sidney Lumet, et il fait une composition extrêmement moderne. En fait, c'est ça, c'est que Quincy Jones arrive dans la musique de film et tranche avec l'héritage de Tionkin, des choses comme ça, des films encore inspiré du musique classique, du romantisme, lui apporte la musique dodécaphonique, apporte le jazz, le bebop, évidemment. Il faut rappeler quand même que Quincy Jones a été formé par Nadia Boulanger à Paris, c'est pas rien. On le surnomme The Q, c'est pas un personnage de James Bond, c'est vraiment quelqu'un qui a existé. Et pour la petite histoire, puisqu'on parlait de Sidney Lumet, c'est lui avec qui va l'appeler pour faire The Wiz au moment où Quincy Jones ne veut plus faire de musique de film. Sur The Wiz, il rencontre un certain Michael Jackson.
Oui.
L'histoire d'après, vous la connaissez, puisqu'il va devenir, il va produire donc Bad of the World ou encore Thriller.
Avant d'écouter la musique de Prêteur sur gage, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet album comme autre morceau de film ?
Alors, il y a plusieurs films, notamment In the Cold Blood, De sang froid, adapté de la nouvelle de Truman Capote, réalisé par Richard Brooks. Ça, c'est la bande originale dont Quincy Jones est le plus fier, extrêmement audacieuse. Pour l'anecdote, puisque je parlais du racisme un peu Hollywood à cette époque-là, Truman Capote aurait dit au réalisateur Richard Brooks, mais pourquoi tu prends un noir pour cette histoire qui se passe dans l'Amérique blanche, Richard Brooks, heureusement, va aller au-delà de ses préjugés. Et il aura raison, puisqu'on a une espèce d'ambiance incroyable. Il faut savoir qu'il va utiliser différents instruments pour exprimer le mental des deux héros, des deux meurtriers du film. Donc, une bande originale absolument prodigieuse qui dit tout le talent de Quincy Jones. Lorsque se barre l'homme perdu.
Lorsque se barre, j'adore. Ce film,
voilà.
Steve McQueen, la fin sur la falaise. Aïe, aïe, aïe.
Et Guet-apens, ne peut-on pas quand même. Voilà, donc c'est pas rien.
On va écouter The Pawnbroker, donc de Sidney Lumet, une musique signée Quincy Jones.
Mmh. one heart to trade or sell. One heart, an empty shell. Perhaps I'll stop in some pawnbroker's shop and see what he might pay for second-hand hearts today. Things, what scale could measure them? What other fool could be a fool like me and treasure them? Since you're gone, I wear you on this heart. How could I on this heart that still loves you?
Voilà, on va interrompre Marc Allen qui chante. Gaël Golan, on revient vers vous et c'est assez généreux de votre part de célébrer une revue de cinéma Starfix créée en 83, soit 7 ans après première. Starfix, la revue de cinéma de genre, mais pas que, créée par Christophe Gans, Doug Edline, rejoint par Nicolas Boukreyev, Fred Albert Lévy, François Cognard, Christophe Lemaire. Et Starfix dans un livre. D'abord, il faut dire que Starfix, ils ont découvert pas mal de gens avant tout le monde.
Oui, je voulais juste revenir sur ce que vous venez de dire, Christine. Généreux, c'est pas généreux. Je paye ma dette parce que on est beaucoup. Thomas, je suis pas sûr que Thomas me contredise, mais on est beaucoup à être les enfants de Starfix. C'est-à-dire que c'est eux qui ont inventé une forme de ciné critique. Il y a eu les rock critiques, il y a eu le ciné critique, et franchement, je pense que Starfix nous a aidé d'abord à y voir plus clair en effectivement découvrant des tonnes de cinéastes qui sont devenus des classiques aujourd'hui.
James Cameron, Sam Raimi.
Méprisé par la critique de l'époque.
Exactement. Plein d'asiatiques récupérés maintenant par les cahiers.
Cronenberg, Carpenter et autres.
Ouais. Mais surtout Ferrara et puis Paul Verhoeven. Mmh. Paul Verhoeven qui à l'époque passait pour le pire des bisseux pour la critique intelligente, les cahiers positifs, etc. D'un seul coup a été trouvé, déniché, inventé quasiment, en tout cas en France, par l'équipe de Christophe Gans de Starfix. Mm. Et il y a une note, notamment dans ce bouquin qui est sublime, qui est au-delà du fait d'être un superbe bouquin pour les amateurs de journalisme cinéma, est un objet merveilleux. Il y a une interview de Paul Verhoeven qui date des années 80, qui est extraordinaire, puisque on voit que là, à ce moment-là, les journalistes, et je crois que c'est Cognard qui fait l'interview, François Cognard, on le flaire, on voit tout de suite que c'est un auteur en devenir, quoi. Et l'interview est extraordinaire.
Le livre sort chez Hors Collection.
Hors Collection.
Vous, alors, en revanche, Thomas Borrez, c'est un petit peu plus intello comme choix de revue, c'est le numéro.
C'est très intello.
Zulavski,
les interviews de Zulavski sont des moments extraordinaires.
Thomas Borrez, c'est une autre, effectivement, une autre cinéphilie.
Voilà.
C'est celle de Serge Danet.
Et de Jean-Claude Biette, oui, absolument.
Voilà. Le numéro 100 de la revue Trafic.
Oui, et comment célébrer un numéro 100? Alors, il faut savoir, c'est la prime à l'écrit. Trafic, il n'y a pas de photo, quasiment pas. Ouais. Voilà, c'était voulu par les fondateurs, le regretté Danet et le regretté Biette également. Mmh. Et alors, l'idée, c'était justement de célébrer l'écrit. Ils ont demandé à des historiens du cinéma, à des cinéastes aussi, comme Eugène Green, de ne pas réfléchir sur un film, comme on pourrait le penser, mais surtout sur un texte critique fondateur. Ouais. Donc, chacun explique comment eh bien, il a été révélé à la critique avec un texte fondateur, un texte sur Eustache, un texte de Danet, un texte de Rivette. Et tout ça est extrêmement intéressant parce que déjà même pour nous critiques ou pour cinéphiles, ça stimule parce que ça leur permet à travers l'analyse de ces écrits passés de réactiver presque leur cinéphilie. C'est extrêmement effectivement dense, c'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher, mais ça se picore. Voilà donc un très beau numéro 100, toujours avec ce petit papier Kraft là.
Magnifique,
ouais, c'est magnifique. Ça, c'est super, c'est culte.
Trafic. Qu'on trouve pas en kiosque, hein, c'est une revue qu'on trouve uniquement en librairie, il faut le dire, et sur abonnement bien sûr.
Exactement.
La revue de Trafic numéro 100. Encore vous, Thomas, pour un cinéaste français né grec qui s'appelle Constantin Gavras. Deux Oscars, un ours, une palme d'or et 50 ans de carrière dans un coffret, mais dont c'est le volume 1, je crois.
Absolument.
Les premiers films.
Les premiers films. Et ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Constantin Gavras, on peut ou pas aimer la dernière partie de carrière. Moi, personnellement, les derniers films me séduisent un peu moins. Ouais. Mais surtout, là, ces films, ces premiers films, ils étaient quasiment invisibles. Et là, on en découvre 9. Alors, bien sûr, il y a le cinéaste politique, L'aveu, Z, hein, c'est des hits de la télévision française qu'on revoit. Mais des films moins connus. Le premier, Compartiment tueur, adapté de Jean Prizzo.
On va écouter un extrait.
Et j'en parle après, bien sûr. Allons-y.
Un extrait entre Michel Piccoli et Yves Montand.
Est-ce que je suis premier à appeler? Je dirais... Non, essaie de pas réfléchir. Je suis un voyageur du fossé, un monsieur Cabourg.
Et alors?
Je voudrais parler au commissaire Graziani.
Mais il est pas commissaire, qui t'es pas.
Comment?
Ne quittez pas. J'écoute.
Je suis Monsieur Cabourg.
Oui, René Cabourg, de rue des Abbesses. C'est bien ça?
Mais comment le savez-vous?
Vous avez déjà oublié? Il y a 2 ans, l'histoire au bois.
Je ne l'ai même pas touché.
Oui, ça n'empêche qu'on vous retrouve toujours dans des histoires de fesses, vous.
Je ne la connaissais pas, cette personne. Cette nuit, j'étais dans le compartiment. Je travaille toujours chez Pogine, le progrès dans votre cuisine. J'ai 40 ans.
Oui, je sais.
J'étais à Marseille juste 2 jours pour mon travail. Je mélange tout. C'est sûr que personne n'a téléphoné. Ils ne savent rien. Ils nous réuniront pour la confrontation. Je vais rater le début du match. Je ne sais pas, j'ai vu personne.
C'est une rareté, ce Compartiment tueur de Costa Gavras.
Une rareté, et oui, absolument, et qu'on découvre en Blu-ray ou en DVD au choix, et donc en copie extrêmement restaurée. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un film en noir et blanc, magnifique, vraiment, en termes de d'image. C'est vraiment, j'ai été saisi par la modernité de l'image. Un casting incroyable, on entend Montand avec Son Aixan et Michel Piccoli. Mais il y a aussi Charles Denner.
Signoret,
absolument. Hein, c'était ils ont fait rarement des films ensemble, Montand et Signoret. Ben voilà. Catherine Allégret, Jean passe. Et c'est vraiment un film extrêmement incroyable. C'est un vrai thriller, mais il en fait quelque chose de très moderne. On parlait de jazz tout à l'heure. On pense vraiment à une espèce d'improvisation de jazz. Et pourtant, la musique est signée du grand Michel Magne.
Et il y a aussi Un homme de trop. Film sur la résistance encore plus rare, encore plus
formidable. Formidable, sur la résistance avec Piccoli, qui est donc l'homme de trop. Et moi, il y a un autre film dans tous ces 9 qui m'a vraiment saisi. C'est Claire de femme.
Claire de femme.
Période sautée, on va dire, de Montand et
Romy
de René Schneider. Ça se passe le temps d'une nuit. C'est extrêmement étrange.
D'après Romain Gary.
Voilà, d'après. Vous savez tout. Et il y a une espèce d'ambiance, le temps d'une nuit, dans Paris, extrêmement étrange et complètement délirante et presque parfois surréaliste, qui est assez étonnante de la part de Constantin Gavras, dit Costa, qu'on a l'habitude de voir dans des films plus linéaires.
9 DVD, coffret chez Arte Vidéo.
Et KG Productions. Et il faut également noter dans les suppléments un entretien entre Christiane Taubira et Costa Gavras.
Oui, et il y a aussi Edoui Plenel qui intervient. Oui, et ça, c'est intéressant, c'est bien pour montrer la portée politique du cinéma de Costa Gavras.
Alors, le cadeau le plus cher de ce matin, c'est Gaël Golen qui l'a trouvé. C'est Walt Disney chez ta chaîne. Alors.
Bah non, bah c'est extraordinaire. Mais de toute façon, voilà.
Vous connaissez le poids de ce livre?
Non, alors 10 kilos. Je l'ai pas pesé. Non.
10 kilos. Si c'est là, je vous assure, 10 kilos.
Je le feuillette seulement. 10 kilos. En fait. Il est encore au bureau, je le feuillette.
J'ai pas reçu, moi, c'est pas si c'est
vrai, mais non plus.
Non, c'est extraordinaire. Mais de toute façon, il est grand temps de rendre à Disney sa place, sa modernité, l'homme révolutionnaire qu'il fut. Il y a une exposition au musée art ludique où il faut encore aller.
Oui, vous avez raison de le dire.
Et c'est extraordinaire, c'est évidemment un objet d'art.
En dessous du musée de la mode.
Exactement. C'est un objet d'art magnifique qui permet de voir la beauté des travaux de picturaux de Disney, ses sources, ses inspirations, c'est-à-dire que ça va de Gustave Doré jusqu'à Dali, parce que évidemment il a travaillé avec les plus grands artistes contemporains du siècle. Il avait un projet de film avec Dali qui est tombé à l'eau, mais voilà, c'est une mine d'or graphique qui est sublime. Et puis encore une fois, ça pendant longtemps, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Walt Disney a été le victime d'une espèce d'opprobre intellectuelle où on disait que ça valait rien, que c'était que ça lavait le cerveau de nos enfants, et on mettait tout dans un sac qui était destiné au mépris. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un inventeur de formes, de récits et surtout d'images qui a façonné notre univers collectif et notre environnement pop culturel, et sa place est immense, quoi. Et ce magnifique livre, ce magnifique, effectivement, qui est un objet fabuleux, comme ta chaîne, comme ta chaîne sait les faire, ce magnifique livre remet encore une fois le Disney à sa place, quoi.
On a choisi un extrait de Blanche-Neige, le premier film.
Now you do something.
Well, what shall I do?
Tell us a story.
Yes, tell us a story. A true story.
A love story.
Well, once there was a princess.
Was the princess you?
And she fell in love.
Was it hard to do?
It was very easy. Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
Was he strong and handsome?
Was he big and tall?
There's nobody like him. Anywhere at all.
Did he say he loved you?
Did he steal a kiss?
He was so romantic, I could not resist.
La Disney ta chaîne. Mais moi, je me souviens du Kubrick ta chaîne.
Même format.
Mais surtout, ils ont fait une édition réduite.
Mini.
Elle est incroyablement bien.
Et beaucoup moins chère.
Elle est beaucoup moins chère.
Mais oui, ça passe de 1 à 5 ans, dans le rapport.
Pour les bourses qui peuvent se le permettre, on va dire, il y a l'objet qui est magnifique,
bien
quoi.
Sûr.
Qui est un truc de fétichiste. Vous parliez de culte, le cinéma.
Oui.
Mais ça se décline aussi dans ce qu'on aime toucher. Thomas en parlait.
Ça, c'est l'homme de presse qui dit ça.
Mais non, mais c'est vrai, mais quand tu parlais de trafic, effectivement,
le
papier craft, c'est extraordinaire, quoi. Et là, c'est pareil, avoir cet énorme bouquin.
Autre très beau travail éditorial, c'est Sport et Cinéma, Laurent.
Mais oui, par un père et un fils, Julien et Gérard Camille, deux très très grands cinéphiles. Alors, c'est publié aux petites éditions du Bailly de Suffren, mais on peut évidemment le commander sans problème dans toutes les bonnes librairies. C'est 460 pages sur un sujet où, moi, je pensais qu'il y avait déjà des tonnes de bouquins dessus. Sport et Cinéma, c'est le titre du bouquin. Eh ben, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement des bouquins, des monographies sur football, les cinémas, etc. Mais sport et cinéma, c'est-à-dire plus de 1000 films recensés, plus de 60 sports différents. Alors, ça va certes, évidemment, du football, mais jusqu'au plus improbable sport de gazon ou nautique, par exemple. Et on y croise Herrero et Belmondo, Teddy Riner et Régis Varnier. C'est incroyablement documenté, et c'est très agréable à feuilleter. C'est un beau cadeau de fin d'année. C'est un beau livre sur un vrai, vrai sujet avec des textes qui valent vraiment le coup. Donc, chapeau aux deux auteurs, Julien et Gérard Camille. Je le répète, Sport et Cinéma aux éditions du Bailly de Suffren.
On en a déjà parlé, mais Cinéma et Mode, c'était très bien également.
Il y a
La Martinière.
La Martinière, il y a une belle série d'éditions cinématographiques en cette fin d'année, c'est vrai.
Thomas Borès, Studio Ciné Live, trois films cultes des années 70 par le réalisateur de Soleil Vert, Richard Fleischer, Terreur aveugle, Les flics ne dorment pas la nuit et L'étrangleur de Rellington Place.
Oui, et puis petite transition à ce que je disais tout à l'heure, puisque Quincy Jones a fait la musique de The New Centurions, Les flics ne dorment pas la nuit. Donc voilà, petit liant. Oui, trois films magistraux des années 70. Oui. Richard Fleischer, il n'est pas très bien estimé, puisqu'on parlait tout à l'heure de cinéastes qui ne sont pas toujours bien représentés. Pourquoi ? Absolument. Parce qu'il s'essaye à plein de genres différents. 20 000 lieues sous les mers, c'est lui. Oui. Les Vikings aussi, Barabbas. Oui. Et il a fait aussi des films quand même extrêmement personnel. Il faut Conan, Kalidor aussi, Conan le Destructeur, c'est lui aussi. Amityville 3D avec une jeune Meg Ryan. Donc il faut dire que tout n'est pas avouable.
Tout n'est pas avouable.
Voilà.
Oui, c'est vrai.
Et avouable.
Mais
et pourtant,
là, il y en a trois à voir.
Hein, et il y en a trois à voir dans les années 70. Oui. Donc, L'étrangleur de Hamilton Place, formidable, avec Richard Attenborough et un jeune Hurt dans un Londres poisseux, d'une lumière très très froide.
Et on écoute un extrait de ça, parce qu'il fait, il fait croire à une femme qui va la soigner.
Now then, you put the mask over your face, lean your head back, lean right back, shut your eyes, close your eyes, that's it, shut your eyes, now then, start your breathing then, breathe quite deeply, breathe.
It smells a bit funny, Mr. Christie.
Yes, do you feel a bit dizzy?
Do a bit.
Yes, well, that's all the goodness taking effect. Breathe, Muriel. Breathe. No, Muriel. No. Breathe, Muriel. No.
Ouais, c'est fou cet extrait. L'étrangleur de Remington Place, donc de Richard Fleischer. Vous vouliez pas évoquer les deux autres aussi, Thomas?
Oui, je vais évoquer les deux juste avant sur ce film-là. Ouais, ce qui est extraordinaire, c'est comment le traitement de l'espace dans la mise en scène de Fleischer, ça se passe dans le confinement d'une espèce de petit immeuble, enfin, petite maison minable, voilà, au fond d'une impasse. Et comment Richard Fleischer avec sa caméra arrive à trouver des angles improbables sans que la mise en scène soit voyante. Ça qui est super chez Fleischer, c'est que la mise en scène est toujours au cordeau mais jamais voyante. C'est-à-dire que vraiment c'est pas l'ego du cinéaste en avant chez Fleischer. C'est peut-être pour ça qu'il a pas été célébré comme il se doit. Les autres films, c'est Terreur aveugle, un film avec Mia Farrow, période qui sort un peu de Rosemary's Baby. On est dans un cottage anglais, dans une belle maison, elle a eu un accident de cheval, cette pauvre Mia Farrow, elle revient aveugle et là elle essaie un petit peu, elle tâtonne dans une maison extrêmement baroque. On croirait un décor d'un film de Giallo de Dario Argento, avec une espèce de moquette comme ça, un petit peu rouge. Elle est aveugle, elle tâtonne, et là, nous, spectateurs, on voit ce qu'elle ne voit pas. Et en gros, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir toute sa famille atrocement mutilée par un serial killer. Donc la preuve que ça a obsédé quand même Richard Fleischer, si on cherche des points saillants de sa filmographie.
Ouais.
C'est extrêmement bien réalisé. Il y a un truc très très organique, à un moment elle se retrouve dans la boue, dans ses sidérants. Et puis The New Centurion, Les flics ne dorment pas la nuit.
C'est un beau titre.
Avec Stacy Keach.
Ouais.
George C. Scott qui a une scène mémorable dans le film avec un Los Angeles et ses teintes orangées. D'ailleurs, il y a Nicolas Boukrieff dans les bonus. On parlait de Starfleet tout à l'heure, qui dit des choses très, très, très intéressantes
comme souvent
sur les films qui n'ont pas la nuit. Ça préfigure d'une certaine manière toutes les séries américaines, c'est-à-dire chroniques policières. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. Et on suit plusieurs chroniques en patrouille, en maraude, avec donc Stacy Keach et George C. Scott qui part à la retraite. C'est un film, une mise en scène, encore une fois, exemplaire et presque documentaire par certains aspects. Et encore une fois, Fleischer se cache derrière sa mise en scène, si je puis dire.
On signale que nos confrères de l'avant-scène cinéma consacrent leur dernier numéro à ce film particulier de Richard Fleischer.
Et ils ont
avec
bien raison.
Gaël Golen.
Non, je voudrais juste te dire, il y a un film jumeau qui fait quasiment la même époque, qui s'appelle The Last Run avec George C. Scott. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, malheureusement, mais qui est extraordinaire de la même manière. Je ne sais même pas si c'est édité en DVD, mais ça, c'est vraiment deux films, les Nouveaux Centurions et The Last Run, qui sont des bijoux de cinéma.
Ils ont été restaurés ou pas, les films?
Alors, restaurés, absolument, compilé par Carlotta, qui avait déjà sorti Les Inconnus dans la ville, ou L'étrangleur de Boston, avec de Tony Curtis, qui est presque un diptyque avec L'étrangleur de Remington Place.
Et là, on va écouter une musique qui va vous dire quelque chose. Bah non,
c'est
attendez,
tout.
On va, bah oui, mais, il faut, non, on va mais parler bon, dessus, on va parler dessus.
Bien, alors, là, on a fait un choix entre Quincy et Lalo,
Donc, Gaël Golen, Lalo Schifrin, donc une anthologie dans la collection, à nouveau, écoutez le cinéma.
Dirty Harry, là, on entendait oui. Dirty Harry, puisqu'en fait, Lalo Schifrin est surtout connu pour avoir été le compagnon. Enfin, il est connu pour beaucoup de choses, parce que tu égrenais les titres, Thomas, tout à l'heure, de Quincy Jones. On peut faire la même chose, hein, Duel dans le Pacifique, Les Félins de René Clément, Le Kid de Cincinnati, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Évidemment, toute la série des Missions Impossibles.
Oui, Missions Impossibles. Oui, impossible.
Et Manix. Mission Impossible, Manix pour la télé, évidemment.
Enter
the Dragon, parce qu'il a fait effectivement la.
Mais je ne les oppose pas, mon cher Gaël.
Lalo Schifrin a été en fait coaché en karaté par Bruce Lee. C'était le son maître de karaté a été Bruce Lee. Bruce Lee s'entraînait tous les matins, il faut que vous le sachiez, il s'entraînait tous les matins, il faisait ses exercices sur son dojo, il faisait ses exercices au son de Mission Impossible. Et quand il a fait son premier film américain, il s'est dit je veux le mec qui a fait la musique de Mission Impossible, ouais. Et il a été chercher Lalo Schifrin pour faire la musique de Enter the Dragon. Donc ce coffret de Stéphane Le Rouge, encore une fois, mais qui décidément fait bien les choses, rassemble quasiment l'intégralité des musiques de films de Lalo Schifrin. C'est extraordinaire, ça passe de ces grands thèmes américains pour le film de Paul Newman que j'ai oublié évidemment, quand il fait le prisonnier.
Quand il fait le prisonnier.
Mais si, on connaît que ça. Il est prisonnier. Luc la main froide. Luc la main froide. C'était un quiz, bravo. Hein.
Bravo.
Si ça avait été un quiz. Donc cette musique de Luc la main froide qui est très américaine, americana. Très traditionnelle, bluegrass quasiment. Ça passe de ça à ce qu'on vient d'entendre, Dirty Harry, puisqu'il a fait les musiques des Dirty Harry. Celui-là, le premier film de Clint Eastwood en tant que inspecteur Harry est formidable, ouais. Parce que ça amène la modernité dans la musique de Thriller.
Parce
que là, j'avais l'impression d'être Michael Jackson.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a les guitares distordues, il y a les cris de femmes un peu plus tard qui deviennent comme des réminiscences de ce qui se passe à l'écran, puisque l'immonde Scorpio viole les femmes.
Ouais.
C'est extraordinaire, très contemporain, très moderne. Lui aussi avait été élève de Nadia Boulanger.
Mais oui, ils sont très contemporains, mais ils se ressemblent tous les deux.
C'est une d'arrangement, beaucoup énormément.
Mais la différence avec Quincy Jones, si je peux me permettre, c'est que lui, en fait, il l'a fait pas par défaut, il voulait vraiment faire des musiques, mais ça l'a vite lassé. En fait, il était lassé, oui. Quincy Jones, par le côté frénétique, il fallait en composer très rapidement. Et lui, à un moment, les producteurs lui disaient « Mais te prends pas la tête à faire des choses chiadées, fais-la ça. » Et donc lui, au bout d'un moment, ça l'a énervé. Et Lalo Schifrin a très bien composé avec ça.
Effectivement, Lalo a su tout de suite, moi aussi je suis un intime, donc Lalo a tout de suite su, très vite, on l'appelait pas The Q, mais Lalo.
C'est un intime, oui, c'est une karaté avec lui,
même là.
A tout de suite su, effectivement, se mettre au diapason de ses producteurs, et ça a donné des merveilles comme ce qu'on vient d'entendre.
Merci, vous restez avec nous bien sûr pour parler des sorties, parce que vous avez vu tous les films qui sortent, qu'on retrouve donc, on en parle après Neil Young, Show Me.
Do you see people being led by the righteous hand, taking care of everyone like they were on a piece of land? Show me, show me, show me. Lives being lost on the sacred land, in the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Are free to stand up for themselves, and the promises made stop gathering dust on the shelves. Show me. 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands, show me, show me, show me, show me, show me.
De la semaine, on va commencer par Rogue One, Star Wars Story, parce que Thomas Borez de Studio Ciné Live, vous l'avez vu.
Je l'ai vu, et oui, c'était...
C'est l'épisode 3,5 de Star Wars.
Alors, on va dire 3,5, en fait, c'est une excroissance, un spin-off en termes hollywoodiens.
Oui, en français.
Voilà, épisode 4 en 1977, donc le premier film qu'on ait vu de la saga, oui. Hein, dans la chronologie Skywalker. Eh bien, il y avait en préambule un petit laïus qui disait, en gros, les plans de l'étoile noire, d'accord, ont été récupérés par les rebelles. Alors, c'est juste une petite phrase comme ça. Eh bien, ils ont décidé d'en faire un film. Qui sont ces rebelles? Donc, c'est pour ça que c'est une espèce d'excroissance.
D'accord.
Voilà, et donc, c'est un film... très bien, c'est produit par Kathleen Kennedy, la productrice légendaire des studios
de Spielberg.
De Spielberg, bien sûr, et qui maintenant, la franchise est chez Disney, mais ça n'a rien perdu de son efficacité, au contraire. Du coup, ça en fait un film un peu dégagé de toutes les conventions du genre. Le cinéaste qui s'appelle, alors je sais, Black, non, j'allais dire Black.
Gareth Edwards.
Gareth Edwards.
Number three.
Number three. il arrive à faire une espèce de mise en scène très organique. Il y a effectivement, c'est pas une surenchère d'effets spéciaux, même s'ils sont là, mais justement, c'est ça, c'est très organique.
Il y a lui, il est fan de base, hein, il est né avec
voilà.
Star Wars.
Alors, c'est pas mon cas, mais du coup, j'ai vraiment apprécié, et surtout, il y a un casting incroyable, il y a Matt Mikkelsen, Forest Whitaker, Felicity Jones, Diego Luna, rien que la gueule, si je puis dire, du casting, rend compte un peu de cette espèce de projet plus intéressant qu'il n'y paraît.
Donnie Yen aussi.
Ouais,
Donnie Yen, il faut citer Donnie Yen.
Oui,
moi, j'ai pas vu le film.
Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est la caution. Maintenant, il faut séduire le marché chinois. Donc, on sent qu'il y a deux héros chinois pour dire que vous inquiétez pas, on pense à vous.
C'est
mais
du racolage.
Ceux-ci, ils sont très bons. Mais donc, le film est plutôt pas mal, ouais.
Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck et Michelle Williams, qui sont d'ailleurs très bien placés au Golden Globe et bientôt aux Oscars. C'est du cinéma indépendant US typique, un peu lent d'ailleurs. Une famille de classe ouvrière du Massachusetts, après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique, est-ce qu'on doit le dire, je ne sais pas, qu'il a séparé de sa famille et de la communauté où il est né et a grandi. Laurent?
Oh, je crois qu'il vaut mieux laisser la parole à la défense.
Ouais. Non, alors il ne faut surtout pas dévoiler effectivement le fameux drame, puisqu'il arrive quasiment au cœur du récit, parce que c'est l'un des intérêts selon moi du film, que de non pas retarder les effets pour les rendre un peu plus prégnants. C'est ce que,
2h17. Hein, pour
2h17. Mais justement, c'est une espèce de façon de retenir, pour retenir aussi l'émotion et surtout le mystère des personnages. Moi, je trouve que c'est un film très littéraire aussi dans sa construction, dans sa façon, dans son écriture. Je trouve que l'interprétation de Casey Affleck est extrêmement intéressante, même si moi, Casey Affleck, il a eu tendance toujours un peu à surjouer avec cette espèce de voix un petit peu éthérée. Et bien là, je trouve
qu'il joue Calimero aussi.
Oui, mais là, il doit jouer Calimero. De fait, c'est un peu dur ce qui lui arrive. Mais là, je trouve qu'il la compose très, très bien.
Il y a une très belle scène, on ne dira pas quelle est l'enjeu, mais dans la rue entre lui et Michelle Williams, qui est absolument... qui était inoubliable.
Mais non, mais je vous trouve très, 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 très dur, là. Je sais pas ce qui
très
se passe.
Gentil,
mais
vous
non, non, non,
c'est
non,
extrêmement gentil,
non,
ce
non, non, la parole à la défense.
Enfin,
non, je trouve que c'est, non, c'est vraiment, c'est un des films de 2016, moi, qui m'a le plus frappé. Je trouve que c'est tout en retenue. Tu dis, c'est très littéraire. C'est vrai que c'est très littéraire, mais c'est aussi extrêmement cinématographique. Je trouve qu'il y a une science du cadre, une manière de poser sa caméra, de retenir ses effets pour qu'il soit encore plus fort. Je trouve ça fabuleux. Je trouve qu'il y a un sens.
D'accord.
Je trouve qu'il y a un sens du spotting musical, comme on dit en anglais, ou du placement musical en français qui est extraordinaire. La bande son est composée principalement de musique classique, mais je trouve qu'il
il en fait un peu trop. Notamment,
c'est un vrai mélo.
Ce que je veux dire, c'est que quand je parle de retenue de temps en temps, je trouve qu'il se laisse un peu aller. Après, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que moi, c'est un film qui m'a quand même pris au trip, quoi. Et j'aime pas dire ça parce que ça veut dire tomber un peu. Mais je trouve que quand même, c'est un film qui s'assume.
Mais exactement.
En tant que drame plus que mélo, c'est un vrai drame psychologique.
Ah, tout se passe en hiver.
Voilà,
les cœurs sont en hiver.
C'est un cœur de pierre.
Ça s'appelle Manchester by
Allez,
the
nous
Sea.
Faire votre opinion.
Là, on va se bagarrer aussi. Personal Shopper, Olivia Sayas, prix de la mise en scène ex aequo avec un tout petit film de Christian Mungiu qui s'appelle Baccalauréat, au passage, très grand film, bon bref. L'histoire de Maureen, une jeune américaine à Paris qui s'occupe de la garde-robe d'une célébrité, d'où le titre. C'est un travail qu'elle n'aime pas, mais elle n'a pas trouvé mieux pour payer son séjour et surtout attendre que se manifeste l'esprit de son frère, Lewis, son frère jumeau, récemment disparu. Laurent.
Encore un film de fantômes pour le cinéma français, on ne citera pas les autres. Non, sur le papier, c'était formidablement passionnant parce que c'est l'antithèse en quelque sorte de Sils Maria, c'est-à-dire c'est le personnage secondaire de Sils Maria, monté en avant, monté en apothéose et en majesté, mais hélas, ça s'arrête là. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça s'arrête là. J'ai trouvé que ça ne décolle jamais, on n'y croit pas, on se demande pourquoi Kristen Stewart se promène comme ça durant tout le film, il n'y a pas cette magie que je retrouve, alors soyons clairs, dans la plupart des films d'Olivia Sayas. Bref, c'est une grosse déception pour moi.
Thomas Borrez, vous avez mis 4 étoiles.
4 étoiles dans ce film. Je suis contre tout ce que, sur toutes les questions que tu te poses. Moi, le film, d'une certaine manière, y répond sans y répondre. Je trouve que c'est un film extrêmement mental. Il faut dire que Maureen, elle a perdu son frère jumeau. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis jumeau moi-même. Hein. Donc, elle est obsédée pour ça. Et donc, c'est un film sur le deuil. C'est comment on essaye de faire ressurgir mentalement et même physiquement, puisque là, c'est le propre du cinéma. Puisque c'est un film sur le cinéma, c'est-à-dire les fantômes, c'est un film de cinéma, c'est comment on arrive à les matérialiser, ce qu'on a dans notre...
C'est ce que réussissait Rebecca Zotowski dans le Planétarium tout récemment.
Oubliez la brocante, le cinéma de brocanteur de Rebecca Zotowski,
le cinéma chic et toc d'Assayas, franchement...
Alors chic, oui, mais pas toc, parce que justement le côté très beau, une belle actrice, un beau cadre,
elle est sublime, elle est sublime.
Ça rend paradoxalement les choses un peu plus noir. Moi, j'avoue que beaucoup ont ri.
Et Benjamin Gulli dans Victor Hugo,
ça c'est ridicule. Chose, non, mais on est d'accord,
on
c'est
pas
ridicule.
Loin du musée Grévin.
C'est ridicule. Bien. Ah, je suis d'accord. C'est ridicule.
Non, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Laurent. Et puis, je trouve qu'il y a le fantasme du film, c'est-à-dire ce qu'il entend raconter et que tu résumes parfaitement. Et puis, ce qu'on voit à l'écran, qui me paraît vraiment totalement dénué d'enjeux, dénué d'incarnation. Il me manque réellement le film, quoi.
Il manque les gens de Starfix qui pourront comprendre aujourd'hui même l'importance de Personal Shopper.
On en reparlera en 2030.
Quand il y aura Starfix numéro 2.
Oh, ça s'appelait donc Personal Shopper.
C'est vrai.
Asayas. Une semaine et un jour, ça c'est la belle surprise qui vient d'Israël. On dit Azap, Polanski, c'est ça, on prononce comme ça.
On va dire comme ça. Mais...
C'est à la fin du Shiva, les 7 jours de deuil dans la tradition juive. L'existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien. Lui et Yal, le père, décide de lâcher prise. Il lâche tout. Il devient copain avec le fils du voisin et tente de nouvelles expériences, notamment fumer des pétards.
Il fume de la beuh. Absolument. Oui. Mais ça, voilà un vrai film sur le deuil. Enfin, voilà un vrai film sur le deuil. C'est-à-dire qu'un film qui se demande comment parler du deuil un peu autrement, avec un pas de côté qui est de ce personnage extraordinaire joué par cet acteur qui est une sorte d'un peu de Jean-Pierre Bacri décalé. Chaï Avivi, c'est son nom. Et je trouve que dans le côté
qui emmerde le monde entier.
Et il emmerde le monde entier parce que le monde entier l'emmerde avec la mort de ce fils qu'il aimait, donc il n'a pas envie de vivre ça, et il nous fait à nous vivre une belle expérience de spectateur dans la tragicomédie, y compris jusqu'au bout. On ne révélera rien de la scène de la fin et de la façon dont il finit par réagir à tout ça, mais je trouve que c'est du beau burlesque intelligent et intéressant.
Des cadeaux pour nos amis, Laurent.
Allez, oui, un livre chacun, d'abord pour Thomas Borrez, pourquoi pas, En guerre, en guépi, info, vos éditions du Rocher, c'est la fin de Patrick Devers, en quelque sorte. C'est un roman très intéressant sur ce sujet. sujet, voilà.
Merci beaucoup.
Pour vous, Gaël, Patrick Glatre, Gabin Dietrich, un couple dans la guerre, aux éditions Robert Laffont, vous connaissez ça?
C'est un Gabin
très...
et Dietrich.
Oui, je d'accord, vous connaissez. Oui, je vous remercie. Ouais. Non, mais cet épisode-là est très intéressant et le bouquin va profondément dans les détails, on n'en connaissait que les anecdotes.
Et pour chacun.
Pour chacun, le même sublime film, Les Poings dans les Poches.
Ah, Marco Bellocchio,
aux éditions Ad Vitam, c'est inédit.
Lou Castel, j'allais te le dire. Lou Castel, formidable.
Il y a trois courts-métrages de Bellocchio et il y a un petit livret signé Michel Simon en plus.
C'est
voilà.
Pour vous remercier, super. Vous, garçons intelligents et passionnés, vraiment, pour Studio Ciné Live, Thomas Borrez et Gaël Golen pour Première et Première. .fr.
On a donné beaucoup de livres, DVD, tout, références, alors tout sur franceinter.fr, vous retrouverez toutes ces références sur notre site.
Invité la semaine prochaine, Jim Jarmusch. Et à ce propos, Jim Jarmusch, une autre allure par Philippe Azoury chez Capricci. Je vous cite juste une phrase que j'aime beaucoup de ce livre. Les films de Jarmusch sont tous faits sur des instants quelconques et magnifiques, calmes mais sans doute sauvés d'une lutte incroyable et qui semble soudain nous arriver. Miraculeusement. Voilà, c'est ce livre, Jim Jarmusch, une autre allure, Philippe Azoury, Capricci. Merci les garçons,
merci
et c'est à vous
pour
le générique, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantes a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Missonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anne Weintefeld. Elle est produite et présentée par Christine Massin et Laurent Delmas. Et moi, Thomas Borrez, j'y étais.
Et moi, Gaël Golen, j'y étais.